Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Alors au sommaire, cette semaine, eh bien, une nouvelle licorne française. Elle s'appelle United, elle vient de lever 170 millions de dollars. United, c'est une fintech, une start-up de la finance. Elle est spécialisée dans le crédit à la consommation. On vous en dit plus dans quelques instants. On parlera aussi d'énergie renouvelable dans cette émission avec deux entreprises françaises en pleine croissance. Tout d'abord Green Yellow qui notamment installe des panneaux solaires sur les toits des hypermarchés. Et puis Watt Park qui elle propose des bornes de recharge électrique à partager avec ses voisins, avec ses clients et même avec ses salariés. Enfin, deux invités cette semaine dans La France a tout pour réussir. En plateau avec nous, Thibaut de Saint-Simon, directeur général de la Fondation Entreprendre. Et puis en duplex depuis Lyon, Josepha Poré, responsable du développement de l'association Ronalpia. Tous les deux, nous parlerons du programme Entreprendre la ruralité pour développer l'entrepreneuriat dans les zones rurales. Mais tout d'abord, eh bien, l'actualité de la semaine, elle a été marquée, vous le savez, évidemment, par le coup de semonce, le coup de pression très efficace mis par Emmanuel Macron en faveur de la vaccination. Ça fonctionne plutôt bien puisque les injections et les prises de rendez-vous se comptent par millions depuis lundi soir. Alors, une question, ou plutôt deux à se poser. A-t-on suffisamment de vaccins en France? Et puis, à terme, quid du fameux vaccin français, le Sanofi, qui serait non seulement créé, mais aussi produit en France? Ces deux questions, Thomas Asportas les a posées à la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. On l'écoute.
Aujourd'hui, on a 9 millions de doses en stock. Donc, on est très largement...
Donc, il n'y a pas de tension sur l'offre.
Capacité. Il n'y a plus de tension sur l'offre parce que les lignes de production sont en place et que les commandes ont été placées jusqu'en 2023.
Et alors, d'accord, donc pas de tension à court terme. Est-ce qu'à moyen terme, et ne serait-ce que l'année prochaine, on va avoir en France des vaccins produits de A à Z? À Choose France, j'ai interviewé le patron de Moderna, Stéphane Bancel. Il me dit, on est en train de voir avec le président de la République si on ne va pas construire un site en France pour fabriquer de l'ARN messager. Vous avez des infos sur ce sujet?
Alors,
ou sur d'autres?
Bien sûr, puisque c'est un sujet sur lequel nous sommes investis. Je rappelle que Sanofi est en train de commencer à démarrer ses chaînes de production sur le vaccin. Donc, si tout
toujours
va
à la
bien,
fin de l'année, ça?
Si tout va bien, d'ici la fin de l'année, on aura des vaccins produits de A à Z en France, disponibles pour les Français et pour les Européens. Ouais. Deuxième élément, nous regardons des projets d'installation du site ARN messager. Ça peut être sur Moderna, ça peut être sur d'autres produits.
Ouais. Mais donc la France est bientôt prête, et elle est à quelques mois en fait, d'avoir enfin sur son territoire une production à 100% de vaccins anti-Covid.
Tout à fait, et ça sera le cas avec Sanofi qui est en phase 3, donc on attend les résultats, mais les résultats de phase 2 étaient positifs.
Et peut-être Moderna l'année prochaine.
Tout autre sujet à présent avec une nouvelle licorne, même si ses fondateurs n'aiment pas vraiment utiliser ce terme. Et bien cette licorne qui vient de lever 170 millions de dollars, elle s'appelle United. Une fintech créée en 2012, spécialisée, je vous le disais dans les titres, dans le crédit à la consommation. United travaille à la fois en marque blanche pour des néobanques, mais aussi pour des grandes marques comme Apple, Microsoft ou Free, pour leur permettre de proposer des crédits à leurs propres clients. Alors on va écouter les explications parfois un peu techniques de Charles Aigli, c'est l'un des cofondateurs de United.
Depuis 2018, on a développé une activité de B2B.
Oui.
Donc on propose à des entreprises, des services financiers ou pas, d'utiliser notre plateforme technologique pour faire du crédit et du paiement.
À ses clients.
À ses clients, exactement. Donc, par exemple, on a une offre auprès de marchands. Donc, on a un partenariat avec Free, avec Microsoft pour la vente de la Xbox, avec les distributeurs d'Apple. Et à eux, on leur propose une solution de paiement étalée sur 24, 36 et 48 mois.
D'accord.
Donc là, c'était plutôt sur des maturités longues. Et donc là, avec cette levée de fonds, on va aller sur les maturités courtes, ce qu'on appelle dans le jargon financier le buy now, pay later. Donc, on va aller aussi sur ces petites maturités courtes pour avoir une gamme complète
et alors,
de paiement étalé.
Donc, en fait, ça
un outil de vente extrêmement efficace.
Oui, ça permet de booster les ventes des e-marchands de 20 à 30%. Donc c'est pour ça que voilà.
Au-delà de ça, vous travaillez beaucoup avec les néobanques, avec Lydia par exemple, Orange Bank.
Tout à fait. Donc ça, c'est la seconde partie de notre activité B2B. Donc on propose notre plateforme technologique de crédit à des entreprises, des services financiers. Donc néobanques, Lydia, N26 en France, Fortuneo. Un équivalent de Fortuneo en Espagne et en Italie qui s'appelle Weezing, Orange Bank, donc on a signé un partenariat il y a 2 semaines avec Orange Bank, donc on sera leur solution de crédit sur leur site web et mobile.
Alors donc vous levez 170 millions de dollars, et ce que vous allez faire notamment, c'est que vous allez beaucoup recruter, mais votre extension en Europe, elle est quasiment déjà faite, vous n'allez pas forcément aller plus loin géographiquement, mais par contre vous allez recruter quoi ? Qui ?
Alors effectivement, là on est sur 5 pays, ouais. France, Italie, Espagne, Portugal, l'Allemagne, on couvre 60% de la population européenne. Donc à court terme, on n'a pas pour ambition de lancer de nouveaux pays. Donc les recrutements que l'on va faire, donc ils sont au nombre de un peu plus de 200 sur les 12 mois à venir. Donc ça va être essentiellement des développeurs, des testeurs, des product managers, au marketing aussi, aux opérations, dans les fonctions support. Donc voilà, c'est à peu près toutes les fonctions de la boîte, et principalement quand même axé sur la tech, la data et le produit.
Et après United, autre start-up qui a besoin de financer son développement, c'est Green Yellow qui envisage une entrée en bourse à l'automne prochain pour une augmentation de capital d'environ 250 millions d'euros. L'entreprise, depuis près de 15 ans, propose à ses clients, notamment des super et des hypermarchés, d'installer des panneaux solaires sur ses sites. Et plus globalement, elle élabore avec eux des plans d'économie d'énergie. Alors Green Yellow fait partie du groupe Casino, mais ne s'adresse pas qu'aux hyper de cette enseigne. Des projets ont même déjà vu le jour dans 16 pays répartis dans 4 continents. Othman Hadji, le président de Green Yellow, était l'invité de Christophe Jacubizine et Sandra Gandouin dans Good Morning Business.
Nous avons aujourd'hui plus de 350 clients en dehors du groupe Casino, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que nous avons une plateforme unique d'offres, ça c'est un point aussi important. Pourquoi ? Parce que nous couvrons ensemble l'ensemble des leviers de la transition énergétique, allant de la production d'énergie verte locale moins chère à de l'efficacité énergétique, la réduction pérenne des consommations de nos clients. On sait que c'est un des éléments clés de la trajectoire carbone de nos clients, et des services de digitalisation de l'énergie.
Vous êtes implanté sur 4 continents, mais là vous vous intéressez à l'Europe.
Notamment à l'Europe.
Alors qu'est-ce que vous allez faire ?
Vous avez raison, nous sommes déjà un acteur de référence sur l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et la France. Et bien sûr, nous avons des velléités d'expansion en Europe, notamment en Europe de l'Est.
Oui, Pologne, Hongrie, Bulgarie.
Tout à fait, avec un partenaire qui est SolarPro pour développer ces métiers-là pour les entreprises et les collectivités de ces pays-là.
Alors, votre capacité aujourd'hui, est-ce qu'il faut expliquer que souvent, vous gardez la propriété de ces investissements, vous louez finalement les toits, vous donnez l'énergie pas chère à ceux qui vous les prêtent ou qui vous les louent, mais en gros, souvent, quasiment exclusivement, vous êtes toujours propriétaire, ce qui veut dire que vous êtes une activité qui est très gourmande en fonds propres et en endettement, parce que vous devez financer toutes ces installations.
On doit financer ces installations, c'est des modèles économiques type infrastructure, on a des flux récurrents visibles, nos contrats avec nos clients sont sur des durées très longues, qui peuvent aller jusqu'à 25 ans, centrale solaire a une durée de vie de plus de 30 ans, et on a des contrats avec nos clients de plus de 25 ans.
Donnez-nous des exemples de ce que vous avez dernièrement.
Bien sûr, donc des réalisations toutes récentes, typiquement dans l'océan Indien, nous avons livré pour l'aéroport Roland-Garros à Saint-Denis, la plus grosse centrale en autoconsommation des Outre-mer, donc qui couvre 25% des besoins énergétiques de l'aéroport. Plus loin, lorsqu'on est en Asie, nous avons réalisé notre 100e projet avec un industriel, projet sur du solaire flottant. Là aussi, beaucoup d'innovations dans ce que nous réalisons, parce que le solaire, il se déploie sur des toitures, sur des parkings, mais aussi sur des bassins de rétention, donc le solaire flottant. Où on vient de signer au Sénégal, par exemple, la réalisation de la plus grosse centrale solaire pour un industriel de l'agroalimentaire de 1,5 mégawatts.
Et on va rester dans le domaine des énergies renouvelables avec Watt Park qui développe un parc de bornes de recharge électrique. 70 de ces bornes vont être installées pendant l'été et ensuite il y en aura d'autres tout au long des prochains mois. Alors ces bornes Watt Park, c'est leur principal avantage, peuvent être partagées par leurs propriétaires avec d'autres personnes. Une solution qui peut donc intéresser les entreprises, les collectivités et même les particuliers. Bertrand Lepage, le directeur général de Watt Park, était récemment l'invité de Frédéric Simotel sur le plateau de Tech & Co.
Pour ceux qui nous regardent en télé, on la voit, c'est une sorte de demi-sphère qui doit faire 30 cm de diamètre.
35
cm
de diamètre, effectivement.
Et donc on installe, voilà, on la fixe au mur, on relie ça au réseau électrique de l'immeuble, de la collectivité, et puis c'est parti. En quoi elle est innovante, cette...
Alors c'est effectivement une borne de recharge, mais elle est un petit peu particulière. En fait, lorsque vous êtes propriétaire de votre borne, vous pouvez forcément l'utiliser pour vous-même, mais le véritable intérêt, c'est que c'est en final la seule borne de charge que vous pouvez partager auprès d'autres utilisateurs de véhicules électriques. Et un peu sur le même principe que Airbnb. Mais en fait, vous définissez les tarifs et les conditions d'accès à votre borne et à votre place de parking et vous générez des revenus sur l'utilisation de votre borne de recharge. Étant donné qu'en tant que propriétaire, vous définissez qui a accès, ça peut être vous, vos amis, votre famille, vous, qui auront en fait un tarif d'accès privilégié, mais vous pouvez très bien décider de l'ouvrir en fait au plus grand nombre, à d'autres utilisateurs de véhicules électriques et vous définissez par exemple un tarif un tout petit peu plus élevé parce que vous donnez accès justement en fait à votre place de parking, la borne et l'énergie qui va avec. Mais ce n'est pas forcément que pour des collectivités, ça a intérêt pour des entreprises et forcément pour des particuliers qui peuvent y voir en fait une génération de revenus supplémentaires.
Et le but c'est quoi? C'est de devenir un gros fournisseur de bornes ou est-ce que c'est vous rapprocher d'un acteur de l'énergie qui pourrait offrir ça en plus? Justement, ils ont les contacts avec les collectivités, ils ont les contacts avec les entreprises et eux, hop, ça, c'est un service supplémentaire qu'ils pourraient offrir.
Exactement, vous avez tout à fait raison. En fait, nous, ici d'ailleurs ça s'appelle Tech & Co, c'est une solution technologique. Donc on est là pour apporter des services supplémentaires lié justement à la recharge, donc ça passe par les conditions d'accès, ça peut être des services supplémentaires pour des restaurants, des hébergeurs, des hôtels qui souhaiteraient offrir ça comme un service supplémentaire à leurs clients. Et nous, étant donné qu'on a développé tout un écosystème, on peut tout à fait le mettre à disposition en marque blanche auprès de gros acteurs qui peuvent être des installateurs spécialisés, qui s'appellent IRVE, ou des gros acteurs de l'énergie s'ils le souhaitent, et s'ils souhaitent avoir un écosystème complet basé sur la réservation.
J'imagine que pour rentabiliser ça, ça se fait assez vite. Parce que la borne vaut combien installée
Alors la borne vaut 599 €, oui, aujourd'hui. Donc sur le modèle 3,7 kW. On a un autre modèle qui est 7,4 kW qui charge un petit peu plus vite. Et là c'est à 899 €. La rentabilité va vraiment dépendre de là où vous vous situez. Si vous êtes dans un endroit où on sait qu'il n'y a pas assez de bornes et il y a beaucoup d'utilisateurs en fait qui sont en déplacement, là c'est sûr, pour vous c'est le jackpot. Mais néanmoins, tout va vraiment dépendre. C'est vrai qu'en race campagne, ça va être une rentabilité un petit peu plus longue.
Un restaurant, pourquoi pas, voilà.
Bien sûr. Ça. Aujourd'hui, on a beaucoup d'hôtels qui nous appellent parce que, alors déjà, quand même, quand vous conduisez un véhicule électrique, eh bien, c'est très important de pouvoir vous recharger là où vous dormez.
C'est le stress, hein.
Exactement. Et c'est ça qu'on souhaite en fait adresser, c'est ne plus avoir de stress, rouler tranquille et d'avoir la sécurité d'avoir une borne qui vous attend en fait à votre destination.
Voilà donc pour ces bornes de recharge électrique Watt Park. Et à présent, tout autre sujet, nous allons parler du programme Entreprendre la ruralité, initié par la Fondation Entreprendre, dont le directeur général Thibault de Saint-Simon est en plateau avec nous. On parlera dans un instant de ce programme. Je précise d'ailleurs que nous sommes également en duplex pour en parler avec Josépha Poré de l'association Rhône-Alpia, duplex depuis Lyon. Thibault de Saint-Simon, bonjour. Donc, et bienvenue dans La France à tout pour réussir. Vous êtes donc à la tête de la Fondation Entreprendre, qui a été créée en 2008 et qui est reconnue d'utilité publique depuis 2011. C'est quoi la Fondation Entreprendre? Quelles sont ses principales missions?
Alors la Fondation Entreprendre, elle est animée par la vision que l'entrepreneuriat peut être un magnifique levier d'intérêt général pour agir en faveur de l'égalité des chances, de l'inclusion de tous les territoires et même de la transition vers une économie plus juste et durable. Et cette vision, on l'a traduit à travers trois missions. Un, c'est de sensibiliser et d'éduquer à l'entrepreneuriat. Parce que souvent, le premier frein à l'entrepreneuriat, c'est soi-même. On estime qu'on n'a pas les compétences, pas le réseau, pas l'argent. Et donc nous, on va semer l'envie d'entreprendre et on va développer les compétences entrepreneuriales partout en France. Ça, c'est notre première mission. La deuxième mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs tout au long de leur parcours. Parce que quand on est lancé dans l'aventure entrepreneuriale, on sait que c'est souvent compliqué. Et donc, on a la chance d'avoir une vraie richesse de réseaux qui accompagnent les entrepreneurs au moment de la création, du développement, et même dans les phases de rebond entrepreneurial, si on a dû déposer le bilan. Et donc, nous, on finance ces réseaux qui accompagnent les entrepreneurs tout au long de leur parcours. Et enfin, on contribue aussi à porter la voix de la cause entrepreneuriale dans le débat public.
Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le réseau Entreprendre, dont on reçoit régulièrement les dirigeants, que ce soit au niveau national ou au niveau local, sur les antennes de BFM Business? Est-ce que vous faites partie de la même galaxie qui a été créée dans les années 80 par la famille Mullier, les propriétaires du groupe Auchan?
Alors, on a cette filiation commune, effectivement, avec le réseau Entreprendre. Donc, le réseau Entreprendre a été créé par André Mullier dans les années 80. Et André Mullier a créé aussi la Fondation Entreprendre avec la première ambition de financer le développement et l'accompagnement du réseau dans son développement. Et puis, il avait aussi ouvert la voie de financer l'éducation et la sensibilisation à l'entrepreneuriat vis-à-vis des jeunes pour favoriser le pipeline des entrepreneurs de demain. Et voilà. Et depuis, la Fondation, elle a bien grandi. On est toujours, l'association familiale Mullier, c'est toujours un partenaire stratégique du développement de la Fondation. Mais on est aussi financé par différents philanthropes privés, que ce soit des entrepreneurs qui ont réussi par entrepreneuriat et qui ont envie de redonner, ou des gens qui croient au potentiel de l'entrepreneuriat, et puis des mécènes d'entreprises qui nous financent à l'instar de AG2R La Mondiale.
Qui ne fait pas que du cyclisme. En ce week-end de fin du Tour de France, on les a beaucoup vus sur les routes du Tour de France. C'est aussi donc un des mécènes de la Fondation.
Exactement. Sur ce programme Entreprendre la ruralité, on l'a plus que... Donc, ils financent le programme AG2R La Mondiale, la Fondation RT aussi, et le fonds de dotation Terre et Fils, qui a été créé par Jean-Sébastien Decaux. Et ils font bien plus que financer le programme. Ils l'ont construit vraiment avec nous. Ils l'animent avec nous. Ils nous partagent leurs compétences et puis aussi leur réseau et leur expertise.
On revient sur ce programme dans quelques instants. D'abord, quelques chiffres clés. Vous avez parlé de vos mécènes, de ceux qui vous financent. C'est un budget global. La Fondation a un budget annuel de 5,3 millions d'euros. Et vous soutenez 22 associations. Vous abritez également 10 fondations. Voilà donc pour une vision un peu chiffrée, un petit peu globale de vos activités. Et le nombre de personnes que vous avez accompagnées depuis donc les années 2008 dans l'entrepreneuriat, vous l'estimez à combien?
Il y a plus d'un million de bénéficiaires qui ont été accompagnés par la Fondation Entreprendre.
Énorme. On en vient donc à ce programme Entreprendre la ruralité. Pourquoi l'avoir lancé? Je crois qu'il y a eu un appel à projet d'abord au printemps 2021. Comment ça s'est passé? Pourquoi l'avoir lancé et les principales étapes jusqu'aux lauréats qui ont été désignés récemment?
Alors, le constat qu'on a fait, c'est que, il y a quand même une vraie volonté aujourd'hui des Français d'aller un peu reconquérir, réinvestir les territoires ruraux, mais qu'il y a quand même aussi un manque de services, d'accès à certains besoins essentiels. Et donc, en gros, notre volonté, c'est de pouvoir justement contribuer à la redynamisation économique et sociale des territoires grâce à l'entrepreneuriat, et aussi animé par un autre constat qui était qu'il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui existent dans les métropoles et assez peu dans les zones rurales. Et donc on a voulu, avec les associations qui ont été sélectionnées dans ce programme, justement créer des dispositifs vraiment spécialisés sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat dans ces territoires ruraux. Et l'idée, c'est pas de que entreprendre dans le territoire, mais c'est aussi entreprendre au service du territoire. Et ça, je pense que c'est une des vraies convictions qui a animé ce programme.
Alors, quatre associations donc ont été labellisées avec ce programme. Est-ce qu'on peut les citer avant d'aller voir l'une d'entre elles du côté de Lyon?
Bien sûr. Donc il y a Atis et RL qui sont en région Nouvelle-Aquitaine. Il y a la Chartreuse de Neuville qui est dans les Hauts-de-France. Et il y a Rhône-Alpia qui est donc en région Rhône-Alpes.
Josépha Pourré, rebonjour. Bonjour, vous êtes donc en duplex de Lyon. Vous êtes donc une des associations qui fait partie donc de ce programme Entreprendre la ruralité. D'abord, quand vous avez été sélectionné, quelle a été votre réaction? Ça va vraiment vous aider à accompagner vous-même un certain nombre de projets et d'entrepreneurs?
Bonjour, oui, tout à fait. Alors, la Fondation Entreprendre, c'est une fondation qu'on connaît déjà bien, qui nous a mis le pied à l'étrier sur nos enjeux de développement dans les territoires ruraux. Donc, c'est un partenaire déjà de confiance assez important. Et l'appel à projet Entreprendre la ruralité nous a permis de créer un consortium à l'échelle régionale pour aller accompagner plus d'entreprises sur notre région, dans les territoires ruraux et sur différents stades de développement. Donc c'est une vraie possibilité pour nous d'expérimenter de nouvelles choses.
Alors je précise donc que ce programme est doté de subventions. Est-ce qu'on parle de subventions de 1 million d'euros? Vous en recevrez grosso modo, je pense, un quart. Si on se base sur cette base de 250 000 euros qui va être versée au cours des prochaines années, qu'est-ce que vous, donc, via votre association Rhônalpia, vous allez faire de cet argent au service des entrepreneurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes?
Alors, Rhônalpia, c'est effectivement une association qui a déjà pour mission d'accompagner des entrepreneurs, d'utilité sociale à l'échelle de la région. Donc, c'est des entrepreneurs qui identifient des constats, des manques sur les territoires et qui se mettent en action à travers le levier entrepreneurial pour y apporter des réponses, donc sur des enjeux de mobilité, de circuits courts, auprès de personnes qui sont éloignées de l'emploi également. Donc, nous, la vocation de Rhônalpia, c'est de les accompagner, d'accompagner ces entrepreneurs à créer des activités à la fois génératrices d'emplois, mais surtout d'impact pour le territoire. Donc là, l'appel à projet Entreprendre la ruralité, nous, ça fait déjà 3 ans qu'on sillonne la région, on va dire, pour aller à la rencontre des besoins et des enjeux de nos ruralités, des entrepreneurs qu'on pourrait accompagner pour essayer d'identifier quels sont les besoins déjà de ces ruralités et puis les besoins des entrepreneurs pour pouvoir y apporter notre accompagnement le plus spécifique et le plus adapté possible. Donc, on les a accompagnés les 3 dernières années sur des enjeux de création. Donc, ça nous a permis de rentrer en contact et sur le terrain avec ces entrepreneurs. Et là, ce qu'on propose dans le cadre d'Entrepreneur Ruralité, c'est d'accompagner des entreprises qui sont plus matures à développer leurs activités, qu'elles soient connectées à leur territoire et aux enjeux de développement de leur territoire. Et tout ça, on le fait avec des experts de certains secteurs d'activité, comme le GRAP sur les enjeux de l'alimentation durable, Village Vivant sur les enjeux de redynamisation des centres-bourgs et des petites cantines sur les enjeux du lien social, qui sont des enjeux très prégnants dans les territoires ruraux. Donc voilà, notre enjeu dans l'entrepreneuriat ruralité, c'est d'accompagner plus d'entreprises à différents stades de développement et au plus proche des territoires de la région.
Et quelques exemples de projets que vous avez donc accompagnés, vous lisiez depuis 2018, vous m'avez cité deux programmes. On peut commencer par l'un pour redynamiser justement les centres-villes ou les centres-villages.
Tout à fait. Comptoir de campagne, qui a été créé il y a 5 ans par Virginie Hills, qui part du constat qu'un village sur deux aujourd'hui n'a plus de commerce en France, et donc qui crée des enjeux de lien social et puis d'accessibilité aussi à certains services de manière assez simple. Donc elle recrée des comptoirs, c'est des lieux au cœur des villages où elle propose différents services, donc de l'accès à l'alimentation de manière assez simple. Et au-delà de cette alimentation, elle a créé différents partenariats avec des entreprises pour permettre à ses habitants dans les villages d'avoir accès, de pouvoir acheter un billet de train, d'avoir accès à un service postal. Et puis, ils ont des salles dans lesquelles ils peuvent accueillir certains indépendants, comme des coiffeurs, des médecins. Donc, c'est rapporté au cœur des villages du service et de l'activité pour répondre aux enjeux individuels, on va dire, et aux besoins des habitants des villages et des territoires.
Et puis, autre projet que vous avez soutenu, je crois qu'il s'appelle OKMED. Là, on est dans la livraison de médicaments et plus généralement de l'accès aux soins, qui est aussi une vraie préoccupation dans les zones rurales en France.
Tout à fait. OKMED, c'est un projet qui est porté par Thomas, qui était ancien ingénieur et une pharmacienne, et qui souhaite donc qui propose un service de portage de médicaments en sous forme de sachets doses à domicile des personnes âgées isolées dans les territoires ruraux également. L'enjeu, c'est de pouvoir favoriser aussi un lien social et puis plus qu'un lien social, apporter une forme de médicalisation adapté à ces personnes et de pouvoir leur apporter tous ces soins dont ils peuvent bénéficier. Donc à la fois, ils favorisent l'accès aux soins des personnes âgées isolées, et au-delà de favoriser cet accès aux soins, c'est aussi soulager les aidants qui peuvent être loin parfois de ces familles et de ces personnes directement qui se retrouvent dans les territoires qui sont dans les territoires ruraux. Pardon.
Merci
beaucoup. Donc voilà, c'est un projet qui a été très sollicité, notamment pendant la crise Covid, pour pouvoir réapporter aussi du lien social et du contact auprès de ces personnes déjà.
Merci beaucoup. Donc voilà, du très concret sur ce que vous apportez, sur ce que vous soutenez via le programme Entreprendre la ruralité. Merci beaucoup donc à Joseph Aporé qui était en duplex depuis Lyon. On le voit bien, ces projets dans les territoires, ça fonctionne de plus en plus. J'ai presque envie de dire, pardon du mot, mais ça redevient un petit peu tendance, alors que entrepreneuriat et ruralité, ça ne fonctionnait pas. Mais on a vu que cette crise, elle a créé des envies d'aller vivre ailleurs et de se développer ailleurs. Thibault de Saint-Simon.
Complètement. Je pense que c'est le constat qui anime vraiment ce programme. Et d'ailleurs, ce qui nous intéresse aussi dans ce programme, parce que pour rebondir sur ce que dit Josepha, c'est la complémentarité des quatre acteurs associatifs là qu'on finance. Parce que la volonté de la Fondation, c'est vraiment de faire travailler aussi ces acteurs associatifs en coordination, en partage d'expérience. Et nous, notre travail aussi à la Fondation, au-delà de les accompagner individuellement et collectivement, c'est aussi de pouvoir partager, capitaliser sur les enseignements de ces ces expérimentations dans ces 19 territoires de ces trois régions et de pouvoir les partager à tous les réseaux qui souhaitent à l'instar de ces quatre associations-là soutenir l'entrepreneur en réalité. Donc on espère que ce programme-là pourra aussi rayonner au-delà de ces quatre acteurs.
C'est une première édition, ça veut dire qu'il y en aura une deuxième déjà dans les tuyaux courant 2022?
Alors, d'abord, c'est une première édition, mais qui est sur 3 ans. Donc, c'est un programme qu'on va mener là sur les 3 prochaines années, qui commence d'ailleurs par un diagnostic assez approfondi du territoire. Ça, c'est vraiment la première phase du programme, parce que, comme je le disais, ce qu'on souhaitait vraiment, c'est s'assurer qu'on puisse accompagner le développement d'un entrepreneuriat qui soit au service du territoire. Et donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre quels sont les réels besoins en termes de mobilité, de santé, de création d'emplois, de services de proximité, et donc de pouvoir aussi flécher et pousser la création d'entreprises vers ces opportunités de besoin de territoire.
Une toute dernière question, comment les entrepreneurs et entrepreneureux que vous suivez, que vous accompagnez via la Fondation Entreprendre, ont-ils vécu cette crise dont on espère qu'on est en train de sortir? Est-ce que vous sentez quand même ce regain d'énergie qu'on sent au niveau France? Vous le sentez aussi après des mois difficiles chez les entrepreneurs?
Nous, ce qu'on a observé à la Fondation Entreprendre, c'est que passé la stupéfaction du premier confinement, qui finalement chez les entrepreneurs est passé très vite, ils se sont très vite remis à cheval, ils ont repris les rênes de leur entreprise. Je pense que la capacité d'adaptation, l'agilité, c'est vraiment dans l'ADN entrepreneurial. On a vu qu'en 2020, on n'a jamais autant créé d'entreprises en France que cette année-là, donc on voit que l'envie d'entreprendre, elle est toujours bien présente. En revanche, notre message, c'est que il faut se faire accompagner, parce que l'aventure entrepreneuriale, c'est compliqué, et dans ce contexte-là, ça peut l'être encore plus, et qu'on a la chance d'avoir des magnifiques réseaux qui accompagnent les entrepreneurs, que la Fondation finance et qui sont accessibles à tous les entrepreneurs. Donc vraiment, entreprenez, mais ne le faites pas seul.
Voilà, le mot de la fin, le mot positif, optimiste, comme on l'aime sur cette émission. Merci beaucoup Thibault de Saint-Simon. Merci d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. Merci donc également à Joseph Apore qui était en duplex de Lyon. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le week-end prochain pour un tout nouveau numéro inédit encore de la France à tout pour réussir. Nous recevrons notamment Camille Girard, c'est la toute jeune fondatrice du site Simplement Français. Très bon week-end, très belle semaine, peut-être même très belles vacances, et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.